Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Historiquement Vôtre, 2 heures de bonne humeur, mais qui vous permettront également de briller ce soir au dîner en étalant crânement votre épatante connaissance historique, grâce bien sûr à ce puits de science dont nul n'a réussi à sonder le fond, mon complice Stéphane Bern, qui sait tout de l'histoire de France et qui peut répondre à n'importe quelle question, par exemple au hasard, pourquoi appelle-t-on Charles II Charles le Chauve ?
Parce qu'en fait, il est chauve.
Oh oui.
Bonjour Stéphane Bern, comment ça va mon champion ?
Mieux que vous, à l'évidence. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bonjour.
Chaque après-midi, vous le savez, on s'amuse à réunir en studio trois personnages de l'histoire qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, celui de l'avoir échappé belle. Alors oui, on va commencer par la reine Victoria, l'une des plus grandes monarques de l'histoire britannique, qui a évité pas moins de 8 tentatives d'assassinat, le plus souvent perpétrées par de simples détraqués. Okay. C'est beaucoup, me direz-vous. C'est vrai,
oui.
Mais ce n'est rien comparé à notre deuxième personnage du jour, qui détient, lui, le record.
Absolument.
Oui, le leader Maximo cubain, donc Fidel Castro, a lui échappé à plus de 600 tentatives d'assassinat. Et là, on sait bien qui voulait se débarrasser de lui, hein.
La CIA.
La CIA, exactement. Je vais vous raconter ça, Mathieu. Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'une de vos idoles, qui elle aussi l'a échappé belle, Zlatan Ibrahimovic. Il a échappé à quoi à la modestie ?
Monsieur est taquin, et Zlatan n'a pas aimé Jean Taquin. Surtout si Jean Taquin mesurait 1m67 avec talonnette et aimait Princesse de Monaco, alors que Zlatan, lui, mesurait 1m90 et aimait Tuning sur Hummer. Je vous raconterai, Stéphane, comment l'irremplaçable Zlatan Ibrahimovic a failli périr sous les coups d'un serial killer.
Oui. Et avec nous, comme chaque après-midi, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes semences. Voici Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, bonjour monsieur. Je vais vous parler moi aussi d'un homme qui a échappé belle grâce à son chauffeur. Hein. Nos présidents de la République passent beaucoup de temps en voiture, en compagnie de leur chauffeur. Évidemment, ceux-ci finissent par en savoir long hein, sur l'intimité de ceux qu'ils transportaient sous la Ve République. Le plus exceptionnel d'entre eux fut le fameux Francis Maroux, chauffeur du général de Gaulle, grâce auquel le général de Gaulle l'a échappé belle lors de l'attentat du petit Clamart. Ce Francis Maroux, c'était un héros pur sucre, mais vous allez voir, on ne peut pas forcément en dire autant de tous ses successeurs.
Notez-le, chers auditeurs, A328B, c'est le digicode de chez Stéphane Bern, dont je vous donnerai l'adresse exacte tout à l'heure. L'histoire du digicode, car le digicode a été inventé, Stéphane, un beau jour. Il n'était pas comme ça, spontanément, sur nos immeubles. Qui a inventé le digicode? Pourquoi? Comment? Quand? C'est avec vous, David.
Je vais vous le dire.
Que nous allons le découvrir.
Tout à fait.
Ça doit être très très récent, le digicode, j'imagine. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce cri?
Le cri de Willem.
C'est une sorte de cri de Willem du doute.
Voilà. Et puis avec Olivier Poul, alors il n'aime que les belles choses, les bonnes choses. Et surtout, il a très envie, un peu comme vous avec Dyson, de se faire envoyer une caisse. Voici Olivier Poul qui nous parle du champagne Cristal Rodrigue.
Qui est un peu le Dyson du champagne.
Voilà, ça, et oui. Surtout, je vous parle de sa bouteille, parce qu'on dit ils l'ont échappé belle, et je vous raconterai pourquoi cette bouteille de champagne a été créée pour éviter des attentats.
Et ça me rappelle la phrase d'Oscar Wilde que vous connaissez certainement, Stéphane. Oui. J'ai des goûts très simples, je me contente du meilleur.
Bien
c'est
sûr.
Un peu vous, ça, Olivier Pouls. Hein. Vous êtes un peu Oscar Wilde.
Il faut bien trouver un prétexte pour demander du cristal Rodrigue.
Oui,
non, mais c'est pour éviter les attentats. Hein.
Évidemment. Toujours une bonne explication. Enfin, Stéphane, si d'aventure vous remportez Bern to be alive, ce quiz souvent douloureux pour vous qui vous oppose chaque jour vers 5h10 à Clémentine Portier-Kaltenbach, je promis.
J'ai gagné hier, non?
Promis. Oui, mais hier, c'était exceptionnel. Promis, je fais péter le cristal Rodrigue et je vous asperge avec.
Ah, j'adore.
Dommage. Je me doute.
Préfère le boire.
Vous préférez le boire? Comme sur les podiums de Formule 1, vous avez toujours rêvé de faire ça. Oui. En tout cas, ça sera tout à l'heure aux alentours de 5h10. Mais d'abord, nous allons plonger dans notre premier récit du jour. Gros plan sur une souveraine chère au cœur de Stéphane, qu'il a bien connue. Une reine qu'il a vraiment échappé belle, la reine Victoria.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
C'est une reine d'Angleterre qui n'aura pas eu l'honneur et le privilège de partager un thé et quelques scones avec Stéphane Bern, mais elle a eu bien d'autres malheurs tout au long de son règne. Stéphane, vous nous racontez celle qui restera, quoi qu'il en soit, l'une des plus grandes monarques de l'histoire britannique, la reine Victoria, une reine qui l'a vraiment échappé belle.
Oui, la reine Victoria est une souveraine au règne exceptionnel, peut-être le plus éclatant de tous, sans froisser Elisabeth II qui nous écoute chaque après-midi, en tout cas on lui recommande. Éclatant le règne de la reine Victoria l'était par bien des aspects, par sa durée d'abord, près de 64 ans, de 1837 jusqu'à sa mort en 1901. Parce qu'il symbolise aussi l'âge d'or du Royaume-Uni, mais également par le nombre impressionnant de tentatives qui furent faites de l'écourter. Notre récit, cependant, ne débute pas en Angleterre, mais en Australie dans les années 1870, à Melbourne précisément, avec un homme apparemment sans rapport avec la monarchie anglaise, un modeste paroissien du nom de John Freeman. Époux et beau-père dévoué, citoyen modèle, il est connu pour sa propension à aider les autres, un homme respectable s'il en est. Enfin, en apparence du moins, car sous les traits de ce John Freeman se cache un passé sombre que jamais sa femme ne découvrira, celui d'un certain Edward Oxford, un homme qui a bien failli mettre un terme au règne de la reine Victoria et changer à jamais la lignée des Windsor. Faisons un bond en arrière dans le temps et dans l'espace. Nous sommes au printemps 1840, le 10 juin. Précisément. La reine Victoria, montée sur le trône tout juste 3 ans auparavant, vient de fêter ses 21 ans. On la présume heureuse car elle vient de se marier avec son grand amour, le prince Albert de Saxe-Coburg, et elle est enceinte de leur premier enfant. Comme il en a pris l'habitude, le couple quitte Buckingham Palace en fin d'après-midi à bord d'une calèche cabriolet, direction le parc voisin de Hyde Park, pour une balade en plein air. Ils se sont éloignés du palais que de quelques dizaines de mètres quand soudain un homme armé de 2 pistolets surgit du bord de la route et tire une première fois dans leur direction, ratant sa cible. Puis une deuxième fois, la reine est-elle blessée? Nul ne connaît encore son sort, mais déjà des passants se jettent sur l'homme, l'immobilisent et le désarment. « C'était moi, leur dit-il, c'est moi qui l'ai fait. » Mais il revendique trop tôt un exploit auquel il vient de faillir. Car la reine est saine et sauve. Plus de peur que de mal, comme on dit, et encore, le couple royal, figurez-vous, a même décidé de maintenir sa balade à Hyde Park, comme le racontera le prince Albert plus tard, parce qu'il fallait bien que la reine prenne l'air. Et excusez-moi du peu, pour montrer surtout aux Anglais que l'incident n'avait pas ôté au couple la confiance qu'il portait à leur peuple. Quel flegme, quel sang-froid, n'est-ce pas? So British. Tentative ratée pour Edward Oxford donc, et tant mieux pour lui d'ailleurs, car eût-il réussi son coup, notre homme n'aurait certainement pas mené par la suite la vie paisible et anonyme que je décrivais en Australie. Son nom aurait eu sa place dans les livres d'histoire aux côtés de ceux de Lee Harvey Oswald pour avoir abattu John F. Kennedy en 1963, de John Wilkes Booth pour le meurtre d'Abraham Lincoln en 1865, ou de François Ravaillac pour avoir assassiné Henri IV 2 siècles plus tôt. Dans un carrosse, lui aussi d'ailleurs. Le même modus operandi, pas le même résultat, ni d'ailleurs le même châtiment. Je vous rappelle que Ravaillac fut torturé, puis écartelé en place de grève. Oxford, lui, ne connut pas le même sort. Acquitté, puisque jugé fou, il fut enfermé 27 ans dans un asile avant d'être libéré et condamné à l'exil dans l'une des colonies britanniques d'outre-mer, en l'occurrence l'Australie. Je vous rappelle qu'on a peuplé l'Australie avec des repris de justice. Oui, voilà. Et aujourd'hui, bon.
Aujourd'hui, bon.
Ils sont descendants tous donc de repris de justice.
Oui, mais néanmoins, on aime bien les Australiens. Si jamais ils nous écoutent, on nous écoute peut-être beaucoup à Sydney, à Canberra, on les embrasse.
Pas tous en même temps, surtout avec le Covid. Libre de redémarrer une nouvelle vie et de ne plus jamais être mêlé à ce genre d'affaires. La reine n'eut pas cette chance, elle, car Edward Oxford n'est que le premier d'une longue liste d'hommes régicides à avoir attenté à sa vie au cours de son très long règne. Au total, elle sera la cible de 8 tentatives, dont aucune ne réussira, puisque, rappelons-le, la reine Victoria s'éteindra en 1901 de sa belle mort, dans son lit, dans sa résidence estivale d'Osborne, sur l'île de Wight. Ces 8 tentatives furent toutes menées selon sensiblement le même schéma. Une balade en calèche pour la reine, un tireur dans la foule, un pistolet chargé, des tirs ratés. À noter que 2 furent menés coup sur coup par le même homme, un certain John Francis en 1842. 8 tentatives donc, mais seulement 7 aspirants assassins. L'une sort toutefois du lot, la seule qui ne fit pas usage d'un pistolet, la seule aussi, et c'est ironique, qui parvint à atteindre sa cible et à blesser la reine. À votre avis, Mathieu, quelle arme est plus efficace que le pistolet?
Eh ben, un couteau, une bombe, un stylo bic?
Non, Mathieu. Une canne. Oui, une canne. L'auteur, un officier de l'armée britannique à la retraite du nom de Robert Pate, mena cette attaque en 1850, tout simplement en s'approchant de son carrosse, alors à l'arrêt et en lui assénant un coup sur la tête. Coup qui lui occasionna tout de même un bleu, un œil au beurre noir et une cicatrice qui persista plusieurs années. Mais au fait, pourquoi en voulait-on autant à la reine ? À la fin de son règne, en 1901, jamais la monarchie n'avait été aussi populaire au Royaume-Uni. L'Empire britannique était alors à son apogée, la plus grande puissance coloniale du monde. Pourtant, entre 1840 et 1882, elle fut victime de ses nombreuses attaques répétées. Quelles raisons les ont motivées ? Pour répondre, penchons-nous rapidement sur son règne. Je le disais au début, la reine Victoria a symbolisé quelque chose de très positif pour le Royaume-Uni, l'apogée de sa puissance dans les dernières décennies du 19e siècle. Et pour parler de cette période prospère, on parle d'ailleurs d'ère victorienne. Prospère économiquement, l'Empire britannique réunit tout de même le quart des terres et des hommes de la planète. C'est la plus grande puissance industrielle ainsi que commerciale. Mais bien sûr, tout ne pouvait pas être rose. Le règne de Victoria, surtout à ses débuts, fut également synonyme de difficultés. Inégalités sociales criantes, du fait notamment de la révolution industrielle, mais aussi codes moraux stricts et puritains, zèle religieux, sans compter les revendications démocratiques et républicaines, inévitables au XIXe siècle. Pourtant, aucune de ces raisons ne semble à l'origine des tentatives d'attentat sur la reine. Non, il semblerait que les raisons de ces actes aient été ailleurs. Soit la recherche de la notoriété, soit la folie. Parfois les deux. En tout cas, officiellement. Et c'est sûrement d'ailleurs pour cela que tous, sans exception, vécurent encore de nombreuses années après leurs entreprises meurtrières. Aucun des aspirants régicides de Victoria n'a connu de condamnation à mort. L'un d'entre eux, celui qui s'y est repris à deux fois, John Francis, a bien, dans un premier temps, été condamné à être pendu, décapité, écartelé, etc. Mais la reine a ensuite transformé sa peine en un simple exil. Ils ont été soit internés quelques années, soit emprisonnés, soit exilés, mais rien de plus. Projetés un court instant sous le feu des projecteurs, puis oubliés, leur vie épargnée, mais leur désir de renommée terriblement déçu. Non, finalement, celle à qui ces crimes ont véritablement profité, c'est la reine. Et oui, puisque de chacune de ces tentatives, la reine d'abord est sortie indemne. Puis ensuite, elle est ressortie plus forte, plus adorée que jamais par son peuple. Et en l'apparence, plus intouchable que jamais. Et continuant à effectuer ses sorties en carrosse découvert, en refusant de laisser la peur dicter sa conduite, en épargnant la vie de ses agresseurs, Victoria n'a fait qu'accroître sa popularité. Elle aurait d'ailleurs un jour concédé que cela valait la peine de se faire tirer dessus pour voir à quel point elle était aimée. Ils sont vraiment fous, ces Anglais.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de la reine Victoria, nous sommes avec la journaliste et écrivaine Béatrix Delaulnoy, qui a une passion assez peu cachée pour les Anglais. Bonjour.
Bonjour, bonjour Stéphane, Béatrix. Bonjour Mathieu.
Il n'y a que des Anglais. Vous avez écrit sur Agatha Christie, Sir Winston Churchill, la reine Victoria, dont vous venez de nous parler cet après-midi. C'est vrai que vous aimez les Anglais. Hein. Alors, je viens de raconter dans mon récit, la reine était face à des meurtriers qui étaient visiblement pas très doués, en tout cas moins aguerris que ceux des romans d'Agatha Christie. Est-ce que on peut parler, Béatrix, de ça? Déséquilibré.
D'abord, il faut remarquer qu'ils avaient du courage, hein, quand même, parce que même s'ils étaient déséquilibrés, quand ils sont rentrés la seconde fois en 1842 pour le second attentat, ils ont remonté le môle vers Buckingham, à la grande avenue qui monte au palais. Albert a vu un homme qui braquait un pistolet. Bon, il n'y a pas eu de coup de feu, les chevaux ont continué, ils sont arrivés à Buckingham. Mais l'après-midi, un palefrenier a dit qu'il avait bien vu l'homme et qu'il avait même entendu s'écrier « que je suis bête de ne pas avoir tiré ». Alors aussitôt, ça a été le branle-bas de combat. Le Premier ministre est arrivé. Albert a décidé que pour l'attraper, le lendemain, il sortirait à la même heure, sans dame d'honneur, pour ne pas leur faire courir de risques. Victoria disait, on n'en menait pas large. Et bon, on avait mis des policiers en civil derrière chaque arbre. L'homme était là, il a été ceinturé et elle écrira le lendemain à son oncle Léopold. Il paraît qu'il est très beau, Il a une vingtaine d'années. Il n'est pas fou du tout, mais au contraire, très malin. Et ça l'énervait beaucoup qu'on dise à chaque fois qu'ils étaient fous, parce que, et qu'on se contente de les enfermer dans des hôpitaux psychiatriques le plus souvent, parce qu'elle disait justement, comme vous disiez, que ça allait donner des idées à d'autres en quête de publicité.
Mais ce qui paraît un peu étonnant, c'est aujourd'hui, il faudrait imaginer prendre le risque de se balader en carrosse cabriolet, donc ouvert. C'est comme si Emmanuel Macron et Brigitte se baladaient dans le parc Monceau, dans une calèche, par exemple, comme ça, sans garde du corps près d'eux. Enfin, c'est des risques inconsidérables.
Oui, mais les rois le font, les présidents ne le font plus, les présidents élus.
Mais pourquoi les rois le faisaient alors?
Ils continuent à le faire d'ailleurs, parce qu'ils disent que ça fait partie des risques du métier.
La reine actuelle d'Angleterre, elle peut se balader en carrosse ouvert, sans vitre.
C'est la dernière. Bon, plus avec le Covid, mais elle continuait à faire des bains de foule.
Bien sûr. Et il y a eu des morts, hein, il faut le dire, puisque en France, Napoléon III a échappé à un attentat devant l'Opéra, que le tsar Alexandre II mourra en 1881, mais il faut dire que c'était des bombes qu'on lançait.
C'était l'époque des anarchistes, au tournant du 19e siècle.
Tandis qu'en Angleterre, quand même, ils avaient des pistolets, mais on ne savait même pas pourquoi ils avaient un pistolet, puisque le suivant, il avait mis que du papier, du tabac et un peu de poudre dans son pistolet.
On va essayer de comprendre pourquoi la reine Victoria était-elle une cible. On va continuer de parler de nos personnages qui l'ont échappé belle, de Victoria en particulier, avec Béatrix Delaunoy sur Europe 1 dans un instant.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
On s'intéresse cet après-midi dans Historiquement Vôtre à ces personnages de l'histoire qui l'ont échappé belle une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à huit fois en ce qui concerne la reine Victoria, dont on parle avec notre invitée Béatrix Delaunoy.
Une petite question quand même, Béatrix Delaunoy, parce que vous avez coécrit avec Philippe Alexandre cet ouvrage consacré à la reine Victoria et vous l'avez intitulé « La dernière reine ». Pourquoi c'est la dernière pour vous? Il n'y en a pas d'autres après?
Écoutez, c'est ce que vous disiez, c'est que le royaume de Grande-Bretagne à l'époque était vraiment le premier royaume, le plus grand, un faste inouï, il possédait les Indes, le soleil ne se couchait jamais sur ses terres. Il y avait la Royal Navy qui sillonnait la mer et il y avait un faste à Buckingham Palace, une richesse, les Maharajas qui apportaient des valises de diamants. C'était vraiment quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on reverra plus jamais.
Alors, elle a régné très longtemps, Victoria, un règne qui aurait pu être écourté, on l'a bien compris. Elle n'a jamais vraiment craint pour sa survie. Enfin, elle fait preuve d'un courage, en tout cas, je ne sais pas si c'est du storytelling, mais enfin, on a l'impression qu'elle bravait le danger comme ça, facilement.
En fait, c'était déjà une monarchie constitutionnelle, donc il n'y avait pas de mouvement révolutionnaire. Les seuls problèmes, c'était les nationalistes. Alors, la première fois qu'elle est allée...
Il y avait les Irlandais, il y avait le problème irlandais qui commençait à poindre.
Oui, il y avait l'Écosse. La première fois qu'elle est allée en Écosse, on lui a fait traverser Édimbourg à toute allure dans sa calèche pour éviter les attentats. Et puis, il y aura deux attentats perpétrés par des Irlandais qui restera l'Irlande. Ça restera le grand problème numéro un jusqu'à la fin du règne, et d'ailleurs il est toujours pas résolu. Il y aura donc deux attentats et elle ira en Irlande quand même courageusement et tout se passera bien. Elle ira sans faste, elle mettra une robe très simple et finalement elle va danser là-bas comme d'habitude et elle va revenir enthousiasmée par les Irlandais.
Dans la série, je sais pas si vous l'avez vu, il y a une série qu'on a vue sur Netflix et sur la reine Victoria justement. On voit ces attentats et la reine Victoria a donc cette conversation avec Albert et ils expliquent que ça fait partie des risques du métier, qu'il faut sortir et continuer à sortir pour montrer au peuple, un, qu'ils n'ont pas peur et que deux, c'est pas parce qu'il y a un fou, en tout cas un type, qu'on doit priver tous les sujets de la vision de leur reine, sinon ils s'inquiéteraient de la santé de leur reine.
Non, et puis en plus, ça déclenchait une vague d'émotions dans tout le pays, et même au Parlement et jusqu'au banc de l'opposition, qui se réjouissait que Sa Majesté soit saine et sauve. En 1842, le Premier ministre Robert Peel, il est arrivé en pleurant au palais de Buckingham, heureux de voir que la reine n'avait pas été tuée. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas encore de photos, mais il y avait des dessins qui montraient le tueur avec la foule qui le menaçait, qui l'attrapait. Il y avait les chevaux qui se cabraient. Et puis, les articles parlaient du courage extraordinaire de Sa Majesté, évidemment. Mmh. Ça, c'était bon pour l'image.
Mais attendez, qui la protège alors? Il y a bien quelqu'un qui la protège.
Alors, à la fin de sa vie, elle avait Brown, hein, John Brown, le fameux valet d'Albert, un géant écossais.
Des coquineries avec John Brown, visiblement. Hein.
Je vois vos yeux,
tout simplement, Stéphane.
Le film formidable avec Judi Dench. Mrs. Brown, formidable film.
Et donc, racontez-nous, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui est ce John Brown?
C'était le valet du prince Albert que après la mort d'Albert, on dit qu'en Écosse, elle a retrouvé l'amour avec... il la protégeait, disons.
Bien sûr. Mais il aimait Albert autant qu'elle. Et quand elle est retournée à Balmoral, la première fois, ils ont pleuré ensemble, ils ont bu du whisky ensemble. C'est John qui l'a forcé à ressortir à nouveau, à remonter à cheval. Et à partir de 1865, elle l'a fait venir à Londres. Et à partir de ce moment-là, John Brown ne l'a plus quitté. C'est lui qui l'a réveillé le matin, c'est lui qui lui a apporté son verre d'eau le soir. Et quand elle sortait en calèche, il était là, debout. C'était un géant, hein, écossais, en kilt avec une grande barbe rose. Il avait les bras croisés et de son œil perçant, il fixait la foule. Et c'est lui d'ailleurs qui a ceinturé un Irlandais quand il y a eu l'attentat en 1872.
Dites-moi, Béatrice, je vais poser une question qui va peut-être choquer Stéphane, mais à vous écouter, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la reine Victoria est un peu... comment dirais-je, manigancer des attentats contre elle pour ensuite faire booster sa popularité? Parce que si on est machiavélique...
Non, je crois pas qu'elle l'était.
On peut l'imaginer, parce que c'est bizarre quand même, elle en tire quand même.
Vous avez mauvais esprit, Mathieu.
Elle n'est jamais touchée. Elle n'est jamais touchée. Une fois, elle a juste un œil au beurre noir.
Bon. Mais c'est vrai qu'il y avait de la surface, en plus. Ils auraient pu,
Mais on se demande pourquoi il n'y a pas plus souvent d'attentats, d'ailleurs, parce que c'est quand même pas si compliqué que ça.
Non, elle était très populaire, mais c'est vrai que ça a joué pour sa popularité. Quoique très populaire, à la fin de sa vie, quand il y a eu son jubilé de 1887, elle était détestée parce que les gens ne la voyaient plus, ne la voyaient plus puisqu'elle restait confinée, surtout à Osborne.
Après la mort d'Albert, Disraeli l'a fait ressortir et en 1887, c'est une grande fête nationale et le jubilé de diamant en 1897, ça sera la grande fête de l'Empire et là sa popularité
va remonter aux zéniths.
Elle est éclatante quand même. Hein. Et franchement, quand la reine prenait son train et voyageait en train, les gens étaient à genoux dans les champs pour la regarder passer le train.
Quand vous vous déplacez en province, je me mets à genoux.
Quand je vois le TGV du président, je suis à genoux à la gare. Non, mais qu'est-ce que vous croyez, Mathieu? Vous vivez dans quel monde? On ne fait plus ce genre de choses. Heureusement. En tout cas, merci Béatrice Delounois.
Merci.
Comme toujours, c'est passionnant de vous écouter. Je rappelle votre livre coécrit avec Philippe Alexandre, La dernière reine Victoria, et votre dernière biographie dont nous avons eu le plaisir de parler ici même, Les 1000 vies d'Agatha Christie, paru aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et tout de suite, on embarque avec celle pour qui l'histoire n'a aucun secret. En voiture, Clémentine. Oui, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, on monte à bord d'une voiture, mais pas n'importe laquelle. Vous nous l'avez dit, du général de Gaulle.
Oui, une voiture du général de Gaulle, conduite par un certain Francis Maroux, né le 18 janvier 1915 à Montboucher, sur Jabron, dans la Drôme. Avant-guerre, Francis Maroux était brigadier de gendarmerie, et puis il a été un grand héros de la Résistance. Alors, en janvier 59, quand son ancien chef de réseau, qui est devenu commandant militaire de l'Élysée, lui propose de devenir chauffeur en titre du chef de l'État, Maroux accepte bien sûr, mais à l'époque il est déjà médaille de la Résistance et médaille militaire. Ça n'est pas n'importe quel chauffeur. Et donc pendant 10 ans, de 59 à 69, c'est lui qui assure tous les déplacements officiels et privés du général de Gaulle. Et bien souvent, il emmène les de Gaulle à Villacoublay, où ils prennent un hélicoptère pour aller à Colombey. Et c'est au cours de l'un de ces trajets qu'a lieu le fameux attentat du Petit Clamart le 22 août 1962. Vous le savez, la déesse présidentielle est canardée à l'arme automatique par un commando de 12 hommes. Alors, par chance, Maroux est un conducteur exceptionnel et qui a un sang-froid à toute épreuve. Alors que la route est mouillée, il accélère à fond sur le sol mouillé en roulant sur les deux jantes, parce que les deux pneus de la DS ont été crevés par des balles, et il parvient sans encombre à Villacoublay. Cela lui vaudra la Légion d'honneur à titre militaire. Quand de Gaulle quitte le pouvoir, eh bien, il n'est pas question pour Maroux de ne pas le suivre. Il prend donc sa retraite, il va s'installer à Colombey et il devient le chauffeur privé et l'homme de confiance du général de Gaulle. C'est lui qui, au moment de la mort du général, transporte son corps dans le salon où il est recouvert jusqu'à mi-poitrine d'un drapeau français. Et puis, quand il va rester le chauffeur d'Yvonne de Gaulle à la mort du général, et c'est lui qui, pour un ultime trajet, l'emmène jusqu'à la maison de retraite où elle finira ses jours. Oui. Oh. Alors, Francis Maroux, il est mort en 87. Jamais, jamais, il n'a accepté la moindre interview, ni écrit, ni participé au moindre livre, rien. Chauffeur suivant, celui de Georges Pompidou, sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire, parce que Pompidou adorait conduire, il roulait en Porsche incognito, et lui, son chauffeur, ça l'intéressait guère, parce qu'il voulait prendre le volant. Noël Séné, chauffeur personnel de Giscard d'Estaing à Chaban-Delmas pendant près de 30 ans. Et lui a raconté que Giscard d'Estaing l'avait choisi comme chauffeur plutôt qu'un gendarme, parce que Giscard savait qu'un gendarme aurait dû rendre compte de son travail à sa hiérarchie, et lui, il voulait être libre d'aller et venir, voyez, hein, sans doute un peu pour ça.
Surtout à l'heure du laitier.
Et c'est, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que François Hollande a choisi de piloter son propre scooter.
Ah, oui.
Ensuite, il y a Pierre Tourlier, naturellement.
Ah, il a écrit un livre, lui.
Tourlier, c'était le chauffeur de François Mitterrand. Il était d'ailleurs déjà son chauffeur avant le 10 mai 81. C'est lui qui ramène Daniel et François Mitterrand à Paris le jour de l'élection. Et c'était vraiment une personnalité étonnante, celui-là. Il avait été proche de l'OS dans sa jeunesse et il devient quand même le chauffeur du président socialiste. Alors, il valait mieux d'ailleurs que Mitterrand eût un chauffeur, parce que c'était un vrai danger public au volant. Et son chauffeur, il avait un look très inattendu, il avait un diamant dans l'oreille. Et puis alors lui aussi, il menait une double vie comme François Mitterrand, ce qui avait sans doute créé un lien particulier entre les deux. Si l'on en croit ses mémoires, il aurait même partagé certaines maîtresses du président. En tout cas, c'est lui qui...
C'est un goûteur ?
Oui, il faut croire. Hein. C'est lui qui a emmené Mazarine à l'école et c'est lui qui a surnommé François Mitterrand Tonton. Après 95, vous avez raison, Stéphane, il a publié en effet même pas un livre, mais deux, Conduite à gauche en 2000 et Mon quotidien auprès de François Mitterrand en 2005. Hein. Et en fait, il avait pour particularité exceptionnelle de n'avoir quand même jamais passé son permis de conduire.
Oui.
Alors enfin, suivent les plus récents, Jean-Claude Laumont, chauffeur de Jacques Chirac. Alors lui c'est encore un chauffeur écrivain. Il publie en 2001 un livre intitulé 25 ans avec lui, mais là il est essentiellement question des 5 à 7 du président. Donc vous le voyez, on n'en est plus à la discrétion et à la dignité d'un Francis Maroux. Mais ça n'est pas fini. Mai 2003, le tribunal de Chartres a condamné le chauffeur de Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, à 4 mois de retraite perdémie et une amende de 510 € pour avoir été flashé sur l'autoroute à 209 km/h. Enfin, quant au chauffeur de notre actuel président, un gendarme appartenant au groupe de sécurité de la présidence de la République, lui aussi a été pris en excès de vitesse au volant d'une voiture banalisée de la présidence de la République à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, alors qu'il n'était pas en service. Il vient de décoper d'une peine de 500 € d'amende et 4 mois de retraite perdue. Alors vous le voyez, ces deux événements qui se télescopent, l'anniversaire de la naissance de Francis Maroux, chauffeur qui sauva la vie du général de Gaulle et qui était médaillé de la Résistance et Légion d'honneur, et celui de la convocation en justice d'un chauffard accusé de délit routier. Eh bien, aurait dit Caton, le grand orateur romain, ô tempora, ô mores, autre temps, autre mœurs.
Réussir à retomber sur Caton après une chronique sur les chauffeurs des présidents, je dis chapeau l'artiste.
Ah, merci.
Clémentine, vous restez avec nous pour ce moment de l'émission où souvent ses fans s'exclament.
Mais vous êtes un pervers, Mathieu Noël.
Non, j'aime les questions pointues. Le quiz à suivre.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Elle aime les abatis et la blanquette de veau, il aime les baronnes anglaises et les vieux manoirs à retaper, ou l'inverse. L'heure du choc a sonné entre deux visions du monde. Clémentine Portier-Kaltenbach affronte pour la 97e fois Stéphane Bern, qui va tenter de gagner pour la 8e fois. Jouons à Bern to be alive, le quiz aussi historique qu'impitoyable qui anime vos après-midi. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Attention, nous partons au Japon. Fascinant Japon. Du 15e au 19e siècle, les samouraïs pratiquaient le wakashudo. On ne pouvait pas être un guerrier sans avoir connu l'amour, Stéphane. C'était donc une cérémonie où le futur combattant passait 4 heures avec une prostituée, mais avec des rites et des codes bien précis. Vrai ou faux ?
J'hésite entre eux. Oui, c'est absolument vrai. Hein. Ou au contraire...
Ou non. C'est-à-dire, vous hésitez entre oui et non. C'est un peu les deux, le choix binaire qui vous est proposé, Stéphane.
Non, mais entre deux extrêmes. Entre oui, il y a ça.
Ouais.
Ou au contraire, il fallait qu'il soit pur et vierge. Et...
Pour tout vous dire, j'aurais pensé vrai. Comme vous.
Je trouve que les deux sont...
Les deux sont justifiés.
Ouais.
Bon, mais je vais dire c'est vrai.
Vous avez... perdu.
C'était faux. La manière dont je l'énonçais, c'est faux. Il n'y avait pas une cérémonie où le futur combattant passait 4 heures avec une prostituée, avec des rites et des codes bien précis. Le shudo, ou wakashudo, était une initiation sexuelle, mais entre hommes. Plus précisément, entre le maître et le jeune élève. L'amour avec une femme pouvait féminiser le soldat. C'est ce qu'on pensait, en tout cas, au 15e siècle. Et c'est pour éviter ça qu'on pratiquait le shudo. Formidable au Japon. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Pour
mais on encourage l'homosexualité.
Ouais, oui, bah, dans la Grèce antique, c'est un peu comme dans la Grèce antique, exactement, bien sûr.
Ouais, mais enfin bon.
Bah, oui, bah, Stéphane, mais soyez un peu ouvert d'esprit
mais
quand
si
même.
Vous verrez, il y en avait bien d'autres. Là, un jour, je vais vous faire une chronique sur le bataillon sacré de Thèbes où on faisait combattre ensemble des amants parce qu'ils se battaient jusqu'à la mort par amour. C'est magnifique. Je vous fais ça la semaine prochaine.
Ah oui,
alors question 2.
Question 2. Les Britanniques.
Il suffit de les chauffer c'est parti.
Les Britanniques ont tellement combattu, on en parlait, la culture écossaise que pendant 200 ans, 14 distilleries écossaises avaient l'interdiction formelle de vendre leur whisky en Angleterre. Vrai ou faux ?
Ah, les Anglais ont été ignobles avec les Écossais et moi, je suis moi-même la réincarnation d'un seigneur écossais du Moyen-Âge qui jouait de la cornemuse sur les tours de son château. Donc, je hais les Anglais sur le papier, en tout cas. Ils sont capables de tout et ils sont largement capables d'avoir interdit des distilleries écossaises d'ouvrir. Donc, je dis oui.
Vous avez...
Les Anglais sont capables de tout, certes, mais pas de se priver de whisky. Clémentine, en revanche, la cornemuse a été interdite 200 ans dans tout le Royaume-Uni. Elle a été classée comme une arme de guerre dès 1746.
Oui, mais bien sûr.
L'interdiction n'a été levée
qu'en 1910. Ça galvanise les troupes, la cornemuse. C'est fantastique.
Alors, pour l'instant, aucune bonne réponse dans ce quiz. Il va falloir remonter un petit peu la pente, les amis. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. L'expression « délit de sale gueule » a longtemps été prise au pied de la lettre aux États-Unis et notamment à Chicago, où à la fin du 19e siècle, il existait une loi interdisant, je cite, aux personnes laides, mutilées et handicapées d'apparaître dans l'espace public. Vrai ou faux ?
À quelle époque ?
Nous sommes au 19e siècle, à Chicago.
Mais ça serait épouvantable, dégoûtant.
Les moches n'ont pas le droit de sortir dans la rue,
bah,
Stéphane.
Moi, je veux aller où alors ?
Non, Stéphane, ne soyez pas comme ça, ils cherchent le compliment.
Non, mais c'est peut-être l'idée que la difformité doit être cachée, un petit peu comme Elephant Man, c'est-à-dire que c'est à la fois cruel, mais...
Il y aurait une police des moches, alors, pour décréter qui est suffisamment moche pour être exclu de la statue.
Et qui es-tu, toi, le gardien de la beauté, pour me dire que je suis moche ?
Non,
c'est-à-dire...
Oui.
Il y a peut-être ça, mais c'est mal formulé.
Vous n'avez pas l'air d'y croire. Vous venez de dire que j'ai mal formulé les choses. La loi eut été mal formulée.
À la rigueur, on peut... Parce que qui décide de...
Mais
qui
c'est
fait
le problème.
Tribunal de la
Quelle est votre réponse, Stéphane ?
Non, c'est non.
Vous avez... Vraiment, je suis désolé pour vous, encore perdu.
Festival de la loose aujourd'hui. Oui, c'est vrai que... Ah, moi aussi, j'aurais répondu non, ça paraît trop gros. Pourtant, c'est vrai. En 1867, à San Francisco, puis dans de nombreuses villes des États de l'Ouest, ont été adoptées ce qu'on a appelé les ugly laws, les lois des moches. C'est une façon assez efficace de se débarrasser des mendiants et des personnes les plus démunies. Le but, je cite, « préserver la qualité de vie des concitoyens », en espérant que le préfet allemand ne nous écoute pas, ça pourrait lui donner des idées. Ce n'est qu'en 1974 que toutes les ugly laws ont officiellement disparu.
Mais, voyez-vous, je préfère perdre pour plutôt que de considérer
vous préférez perdre contre la vérité.
Oh la
non mais parce que, parce que je trouve ça tellement
c'est
ignoble.
Trop douloureux son cœur saigne.
Mais l'histoire parfois est ignoble.
Je sais, vous le savez. Ça me fait beaucoup de peine.
Question numéro 4.
Vous m'avez fait de la peine.
Pour vous, Clémentine.
Je me bats pour le point de la partie là.
C'est le point. Il faut que si vous répondez juste à cette question, vous avez gagné le quiz. Théodore Morel a été le médecin personnel d'Adolf Hitler de 1936 jusqu'à la fin de la vie du Führer.
Oui, oui.
Il a également écrit de nombreux travaux sur la mémoire de l'eau qui ont été utilisés dans les années 70 pour tenter de prouver l'efficacité de l'hydrothérapie. Mmh. Vrai ou faux ?
Ce type était complètement dingue. C'est lui qui a administré des piqûres sur piqûres de toutes sortes de cocktails à Hitler.
Il n'avait pas peur des effets secondaires.
Il ne refusait rien. Et que, par ailleurs, il ait pu travailler sur autre chose entre deux picouses, je le crois volontiers. Pourquoi pas sur la mémoire de l'eau? C'est le côté écolo de toute cette clique nazie qui assassinait d'une main et réfléchissait à la beauté du monde de l'autre. Donc je réponds oui.
Le raisonnement est imparable.
Ouais, c'est bon. Vous avez encore perdu.
Eh oui, c'est la totale. C'est la complète, la jambon œuf fromage de la loose aujourd'hui dans le quiz. Que des mauvaises réponses, Thomas. Et en plus, vous avez dit tout ce qui était vrai concernant ce médecin. Théodore Morel était adepte d'une médecine iconoclaste. Il n'hésitait pas à prescrire plus de 90 médicaments à la fois à Hitler, avec une grosse consommation de stéroïdes et d'amphétamines. Certains historiens ont même émis l'hypothèse qu'il faisait cela pour neutraliser Hitler. Question numéro 5, elle va vous départager, c'est notre fameuse question de rapidité. Trois propositions, vous attendez que je les ai énoncées.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.
Ça c'est Jacques Dutronc.
Mais hélas pour vous, pas la question Stéphane. Vous avez reconnu les paroles de la célèbre chanson de Jacques Dutronc. Mais pourquoi le poète surréaliste André Breton surnommait la place Dauphine le sexe de Paris? Trois propositions. 1, à cause de sa forme. 2, car elle donnait sur la rue anciennement appelée du tire-boudin. Ou 3, parce qu'il y avait un marché de poissons très réputé.
À cause de sa forme.
À cause de sa forme. Eh oui, la rapidité. Vous avez dit 1.
Il a dit 1. Première réponse.
Oui, mais vous l'avez dit après Clémentine. Et ça, ils sont formels en régie.
J'adore ce jeu.
À cause de sa forme, c'est dans son recueil de textes La Clé des Champs, 1953, qu'il utilise, sacré André Breton, cette expression. Et en effet, sa forme triangulaire, la scène qui se sépare en son sommet, peut faire penser à un sexe féminin, surtout quand on est un poète surréaliste. Bravo, bravo Clémentine, vous avez sauvé l'honneur de notre émission dans ce quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Oh, quelle joie de passer l'après-midi avec vous.
Non, c'est réciproque, Stéphane.
Non, je m'adressais aux auditeurs, Mathieu. Je vous aime bien aussi, d'autant qu'aujourd'hui, le programme est palpitant.
Mais comme vous dites, Stéphane, puisque nos trois personnages ont pour point commun de l'avoir échappé belle.
Oui, après la reine Victoria qui a échappé à 8 attentats, je vais vous raconter le destin encore plus agité, avec plus de 600 tentatives d'assassinat par la CIA d'un certain Fidel Castro, célèbre leader politique de Cuba.
Oui, et votre ancien camarade au sein des jeunesses communistes. Mmh. Et comme réunir la reine Victoria et Fidel Castro dans une même émission ne nous suffisait pas, on s'est dit, tiens, et si on ajoutait Zlatan Ibrahimovic au milieu? Après tout, lui aussi a failli se faire buter par un serial killer fou, même s'il est serial killer pas fou, ça court pas les rues. Stéphane, vous oubliez nos chroniqueurs?
Ah pardon!
Mais oui, regardez qui nous a rejoint en studio!
Mais regardez, qui sont-ils?
On est transparent, je ne vois plus.
Chaussez vos lunettes, Stéphane, ils
non,
sont là.
Non, nos chroniqueurs, nous avons David Castel-Lopez qui nous raconte les origines, vous savez, de cette chose qui nous empêche maintenant de rentrer chez nous si on a oublié le code.
Le
digicode.
D'où ça vient? Mais c'est quand on a viré les concierges, on les a remplacés par des machines.
Jadis, les concierges étaient en vogue, maintenant on les a remplacés par des digicodes. C'était un verre de MC Solar. Non, obsolète, bravo Olivier Pouls.
Bravo, ouais, c'est super.
Ah, on connaît ces classiques.
Et justement, culture populaire, Olivier Pouls, qui a remplacé un champagne par un autre. Aujourd'hui, il nous parle du Cristal Roederer.
Un champagne très accessible qu'on vous conseille. Hein,
oui,
c'est vraiment,
qui a une bouteille très particulière et dont la fonction a été justement, dans le cadre de cette émission, dont la fonction a été créée pour éviter les attentats.
Je comprends pas.
Pourquoi. Ah, mais vous verrez, ça va être très clair tout à l'heure.
D'une bouteille peut éviter des attentats.
Ah ben vous allez voir. Et puis plus globalement, on se posera la question de savoir, tiens, pourquoi une bouteille fait 75 centilitres, pourquoi le verre est vert et pourquoi il y a un cul dans la bouteille, vous savez, le petit trou.
Pour moi, tout ça, ce sont des paroles sibyllines. Et heureusement, Stéphane, que vous êtes là pour nous décrypter l'origine de cette expression.
Oui, exactement. C'est le mot de la fin.
Le mot de la fin.
Et comme son nom l'indique, c'est à la fin de l'émission.
Vous le délivrerez contractuellement qu'à la fin de l'émission. Oui. Mais tout de suite, Stéphano, direction la Havana. Si, comme en Rome. Stéphane Bern face à Fidel Castro, il y a moyen qu'on rigole.
Elle l'idée à Massimo.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Alors Stéphane, on parle aujourd'hui des personnages historiques qui l'ont échappé belle, de ceux qui, soit par chance, soit par l'efficacité de leurs services de sécurité, ont survécu à de nombreuses tentatives d'assassinat. Et vous nous racontez maintenant un poids lourd, le recordman même, on peut le dire dans ce domaine, j'ai nommé Fidel Castro. Musique cubaine, s'il vous plaît. On y est.
Oui, dans la famille des personnages à l'avoir échappé belle, je vous présente Mathieu, le champion toute catégorie, un véritable trompe-la-mort, Fidel Castro, grand apôtre de la révolution cubana, celui qui a osé défier les États-Unis durant presque 50 ans. Des tentatives d'assassinat, il n'en a pas essuyé que quelques-unes. Non, non, selon l'ancien chef du renseignement cubain, Fabian Escalante, il en aurait subi 634. Une performance inégalée selon le Guinness Book des records. 634 tentatives ratées donc, puisque rappelons-le, Fidel Castro est mort en 2016 à l'âge de 90 ans de sa belle mort. Après une vie riche, si vous me permettez l'expression, une vie maintes fois mise en danger par des tentatives d'assassinat, dont beaucoup, la plupart d'ailleurs, auraient été fomentées par la CIA, rien que ça. Alors, si toutes ne sont pas vérifiables et donc indubitablement avérées, un certain nombre d'entre elles se vérifient grâce à d'autres sources, et pas n'importe lesquelles. Certaines de ces tentatives sont mentionnées dans des documents déclassifiés émanant de la CIA elle-même. Je vais m'attarder sur celles dont on retrouve la trace dans ces fameux rapports américains, si vous le voulez bien. Pour cela, il est d'abord nécessaire de comprendre le contexte politique de l'époque, celui qui justifie ces tentatives. Quelle menace le leader Maximo, littéralement le chef maximum, comme les médias l'avaient surnommé, resté à la tête de l'État cubain près d'un demi-siècle, représentait-il pour l'Amérique ? Tout commence dans les années 50. En 1952, Fulgencio Batista, déjà au pouvoir à Cuba de 1940 à 44, fait un retour en force à la tête du pays. Et ce, grâce à un putsch, un coup d'État militaire que soutiennent les États-Unis. La superpuissance voisine veut asseoir son influence sur l'île, et peu importe si Batista est un dictateur ou pas. Hein. Rapidement, l'opposition s'organise au sein du pays, elle se catalyse au milieu des années 50 autour d'un mouvement révolutionnaire et de son leader charismatique, un certain Fidel Castro. Personnage farouchement nationaliste et anti-impérialiste qui s'entoure de combattants tout aussi déterminés que lui, et notamment du fameux Ernesto Che Guevara. Ensemble, ils mènent une guérilla féroce contre le gouvernement, une lutte armée qui parviendra au tout début de l'année 1959 à renverser le dictateur Batista. C'est le début de l'ère Castro. Une ère qui durera près d'un demi-siècle et qui va transformer le pays en un État socialiste régi par un parti unique, le Parti communiste. Un État aux antipodes du modèle américain, pour résumer, vous voyez. Et qui, dès le départ, ne cache pas son animosité à l'égard de l'Amérique. C'est donc, enfin de l'Amérique, je devrais pas dire l'Amérique, des États-Unis, parce que l'Amérique, Cuba fait partie de l'Amérique. C'est donc une longue période de troubles qui commence entre l'indomptable leader cubain et les États-Unis qui ne voient pas d'un bon œil que l'on conteste leur hégémonie dans la région. Ni que l'on soit communiste d'ailleurs. Ou que l'on fasse ami-ami avec l'ennemi numéro un, c'est-à-dire l'URSS. L'apogée de ces troubles, nous les connaissons, c'est la baie des cochons en 1961, la crise des missiles de Cuba en 1962. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Fidel Castro est une épine dans le pied des Américains, une menace dont il faut s'occuper, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour ne pas déclencher de crise diplomatique, c'est donc à la CIA que le pouvoir exécutif américain confie, officieusement évidemment, cette mission, et cela dès l'arrivée au pouvoir de Castro. Avant 1960, le but n'est pas encore de l'assassiner. L'administration Eisenhower ne cherche au départ qu'à le décrédibiliser. Et pour ce faire, l'agence centrale de renseignement ne manque pas d'imagination. Je vous donne un exemple. L'un des premiers complots à voir le jour projette de disperser dans un studio radio où Castro devait enregistrer une émission, un aérosol aux effets comparables au LSD. Alors, le but, qu'il perde ses moyens et se donne en spectacle. Mais le complot est éventé, si je puis dire. Dans la même veine, la CIA prévoit également, à la même époque, d'empoisonner avec un produit similaire les fameux cigares du dirigeant cubain. Là encore, l'objectif est d'influencer son comportement en public et de le ridiculiser. Mais là encore, le complot tombe à l'eau. Autre idée toujours plus farfelue, empoisonner ses chaussures avec un produit dépilatoire pour lui faire perdre sa fameuse barbe. Car la barbe de Castro, c'est tout un symbole. Lui-même disait qu'elle signifiait beaucoup de choses pour son pays. Le plan devait être mis à exécution dans un hôtel lors d'un voyage à l'étranger. Mais le déplacement de Castro a été annulé et là encore, c'était un échec. Sous l'administration Kennedy, un projet plus agressif voit le jour, qui durera jusqu'au début de l'année 1963. Plus question de décrédibilisation à présent. C'est sa mort que veut le gouvernement américain. Et pour cela, la CIA s'adjoint les services d'un allié des plus improbables, la mafia, dont les contacts sur l'île sont encore bien établis et qui, comme l'État américain, s'est retrouvé largement lésé par la fin des privilèges de l'ère Batista. Les tentatives d'assassinat se succèdent alors à un rythme soutenu. Des complots visant à l'empoisonner, pour la plupart soit via sa nourriture, soit via ses cigares, et elles se soldent toutes par des échecs. Mais la CIA ne se décourage pas. À la suite de l'échec cuisant de la baie des cochons, elle redouble même d'efforts dans le cadre d'un grand projet secret de déstabilisation du gouvernement communiste cubain. Un projet appelé Opération Mongoose et révélé par la commission Church du Sénat américain. Là encore, les tentatives se multiplient sans succès. Toutes sont soit jugées irréalisables, soit avortées avant l'heure, soit déjouées. Pourtant, ce n'est pas faute de varier les méthodes, ni de faire preuve d'originalité. Deux d'entre elles, notamment menées au début des années 63, valent que l'on s'y attarde. Elles visent à tirer profit non plus de sa passion pour les cigares, mais d'un autre de ses hobbies, la plongée sous-marine. La première ambitionne de faire offrir au leader Maximo une combinaison de plongée doublement contaminée par un champignon engendrant une grave maladie de la peau et par le basil de Koch, eh bien la bactérie responsable de la tuberculose. C'est sympa, non ? La seconde, plus loufoque encore, vise à piéger un coquillage avec un explosif. L'idée étant de placer l'objet dans une zone de plongée prisée par le chef de l'État cubain et d'en choisir un si beau qu'il aurait forcément attirer son attention. Au total, ce sont 8 tentatives d'assassinat qui sont recensées dans le rapport de la commission Church entre 1960 et 1965. Un chiffre très loin de la vérité, selon le chef des services secrets cubains. Son livre, sorti en 2006, est intitulé « 634 façons de tuer Fidel Castro » en recense sous toutes les présidences américaines entre 1959 et 2001, 38 sous Eisenhower, 42 sous Kennedy, 72 sous Johnson, 184 sous Nixon, etc., etc., et même jusqu'à Bill Clinton. Comme Fidel Castro l'a lui-même fait remarquer, si survivre à des tentatives d'assassinat était un sport olympique, je décrocherais la médaille d'or.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de ce survivant qu'était Fidel Castro, nous sommes avec un spécialiste de l'Amérique latine. Bonjour Christophe Ventura.
Bonjour.
Alors on va parler avec vous de Fidel Castro, le survivant avec vous, dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Ils l'ont échappé belle, c'est le thème de notre émission cet après-midi. On parle de Fidel Castro avec notre invité Christophe Ventura.
Oui, Christophe Ventura, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, Institut de recherche internationale et stratégique, spécialiste notamment de l'Amérique latine. On parle donc cet après-midi de Fidel Castro, l'homme qui a échappé à la mort 634 fois. Pourquoi c'est Castro qui détient ce record ? Il était, dès le début, on le sait, l'ennemi absolu inégalé des États-Unis. En fait, il cochait toutes les cases. Il était anti-impérialiste, nationaliste, ami des Russes. C'est pour ça que on a autant voulu le tuer.
Oui, tout à fait. C'est pour ça, nationaliste, je crois que c'est le point de départ pour comprendre l'animosité entre Washington et la Havane, parce qu'en réalité, l'antagonisme fondamental entre les deux pays, c'est surtout quand on est de ce côté-là de la planète, l'indépendance de Cuba, qui est le point initial de l'antagonisme entre les deux pays, parce que les États-Unis ont toujours considéré Cuba comme une partie quasiment intégrée au territoire américain. Et c'est ça qui est le démarrage de l'antagonisme entre les deux pays, que Castro a fait revivre, c'est que lui considère qu'il a finalement finalisé, conclu ce mouvement d'indépendance qui avait commencé à la fin du 19e en mettant les Américains hors de son pays. Et donc c'est ça qui est le point fondamental et qui est venu, qui a été après radicalisé par le contexte de la guerre froide. Faut se rappeler qu'à un moment donné, Cuba a été le centre des relations internationales et du monde lorsque le monde a failli basculer dans la Troisième Guerre mondiale avec la crise des missiles. Et Castro a joué un rôle avec une autonomie politique incroyable pour un si petit pays. Il a joué un rôle de chef d'État d'une grande puissance mondiale.
Stéphane a dit dans le récit que la CIA a cherché à faire au départ, c'est pas tuer Castro, c'est le ridiculiser. Mais finalement, c'est avec toutes ces tentatives, c'est eux qui se sont ridiculisés avec l'empoisonnement du cigare, l'impression d'être dans Tintin. Enfin, c'est surréaliste. Est-ce que tout ça est avéré?
Alors, c'est difficile à dire de manière tranchée. Est-ce que tout ça est avéré? Il y a certainement une part un peu de légende qui est entretenue aussi par les différents acteurs, à commencer par Fidel Castro. Est-ce que réellement il y a eu 634 tentatives d'assassinat? On peut pas vraiment l'affirmer. En tout cas, il y en a eu beaucoup. Et à un moment donné, c'est clair que c'était l'ennemi numéro un des États-Unis et que surtout à une époque après-guerre où il y avait à l'époque une sorte de modernisation des techniques, des technologies à l'époque qui permettaient à la CIA d'expérimenter tout un tas de choses pour éliminer ses adversaires. Donc la CIA a échoué lorsqu'elle a essayé de faire les choses par elle-même. Elle a essayé ensuite de sous-traiter en quelque sorte des opérations pour l'éliminer physiquement à des Cubains qui étaient sur place, des gens qui étaient liés à l'ancien régime de Batista, des anciens agents de la police, des services de Batista, de l'armée qui étaient restés sur place avant que Castro les élimine tous finalement, soit les éliminant, soit les arrêtant, soit les expulsant du pays pour qu'ils aillent rejoindre Miami, justement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ça a raté aussi. Et donc, après, ils ont misé un peu sur, j'irais, la croyance technologique, le fait technologique, avec cette idée qu'ils allaient pouvoir, dans un coquillage, dans un cigare, une chaussure.
Il y a eu le stylo empoisonné aussi, non?
Voilà, il y a eu ça, au fonctionnaire cubain qui devait lui remettre un stylo, qui était empoisonné, en espérant qu'il puisse le mâchouiller. Il y a eu aussi un coup assez, vous disiez loufoque, je crois que c'est le bon mot, où à un moment donné, on avait voulu mettre une capsule de cyanure dans un milkshake au chocolat que devait manger Castro à l'hôtel La Habana Libre. Et finalement, la capsule de cyanure est restée coincée dans le frigo. L'agent n'a pas réussi à la détacher parce qu'elle était congelée dans le frigo.
Oh, non,
donc voilà. Comme dit d'ailleurs souvent Fidel Castro, il dit souvent que ce qui l'a sauvé, c'est aussi le hasard, c'est la chance.
Puis la baraka, c'est la baraka.
Il a toujours invoqué la baraka.
Mais sa barbe, parce qu'on a essayé de l'attaquer à travers sa barbe. En quoi est-ce que sa barbe était aussi emblématique?
Alors la barbe, c'est un symbole patriotique. À Cuba. Castro avait dit « Je me raserai quand j'aurai fait tomber Batista ». Ça, c'était le premier chapitre. Et donc, tout le monde a fait pareil pour avoir ça. Deuxièmement, la barbe, c'est quelque chose qui vous donne une stature de sagesse et de maturité, surtout quand vous avez à peine 30 ans. Castro, rappelons-le, a pris le pouvoir à 32 ans. Hein. On n'a pas idée de ces choses-là. Donc, la barbe, c'est quelque chose qui, quelque part, vous rend plus mature, vous vieillit, vous donne un côté un peu antique, un peu comme ça, Socrate ou Aristote, etc. Et c'est donc la geste révolutionnaire de l'intelligence, etc. Et puis ensuite, quand il a pris le pouvoir, il a dit « Bah non, finalement, j'ai pas rasé la barbe. Je ferai tomber ma barbe le jour où j'aurai réussi à ce que ce gouvernement fasse tout ce qu'il a à faire pour rendre le peuple cubain heureux. » Et donc, c'est resté comme ça. Il a gardé sa barbe jusqu'à sa mort.
Il considère
que lui-même n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était donné pour en toute chose.
En tout cas,
et tout le monde a fait comme ça.
Il est rentré dans la légende avec sa barbe et avec ses 634 tentatives d'assassinat. En tout cas, merci Christophe Ventura. Je rappelle le titre de votre livre, L'éveil d'un continent géopolitique de l'Amérique latine et de la Caraïbe, paru aux éditions Armand Collin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de Fidel Castro.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui l'ont échappé belle. Après la reine Victoria et Fidel Castro, vous nous brossez maintenant, Mathieu, le portrait 99% vrai d'une star du foot qui, elle aussi, l'a échappé belle. À quelques minutes près, quick.
Comme vous dites, Stéphane, avec cette virtuosité littéraire qui vous place, selon moi, au même niveau qu'un Simenon, à quelques minutes près, quick. À quelques minutes près, un funeste 8 avril 2010, nous perdions le footballeur Zlatan Ibrahimovic. Or, même vous, Stéphane, qui n'y connaissez rien en foot, qui pensait que le 4-4-2 est une variante du 4-4, et pour qui Mauricio Pochettino est plus une figure du Bois de Boulogne que du Parc des Princes, même vous, Stéphane, vous avez entendu ce nom, Zlatan Ibrahimovic. Plus qu'un joueur, une légende. Une grande gueule comme le sport nous en offre une par décennie. Comment exprimer ça? Si Cantona et McEnroe avaient fait un bébé, je veux dire si l'un des deux avait accepté par amour de l'autre de subir une vaginoplastie, le double inversé de la phalloplastie, cher à David, eh bien le bébé issu de cette union explosive aurait été Zlatan Ibrahimovic. Pour résumer, avant Zlatan, quand à l'issue d'un match, un journaliste demandait à un joueur s'il avait été bon, ce dernier, formaté par une équipe de 12 conseillers en com, eux-mêmes préalablement formatés à HEC, majeur marketing sportif, déclarait, avec le charisme d'une palourde lyophilisée Lidl, « Oui, écoutez, c'est vrai que j'ai mis 3 buts, dont une reprise de volée et un retourné acrobatique, mais l'important c'est les 3 points, l'important c'est le collectif, on va pas s'emballer, la saison sera longue, on va prendre les matchs les uns après les autres. » Zlatan Ibrahimovic, lui, peut-être parce qu'il était plus malin, peut-être parce qu'il avait compris que quoi qu'il arrive, on ne pouvait pas prendre les matchs autrement que les uns après les autres, a fait voler en éclats ce verbiage soporifique avec des déclarations préliminaires telles que « Je suis le Nord, je suis le Sud, je suis l'Ouest et je suis l'Est, je suis Zlatan Ibrahimovic ». Un côté Chuck Norris qui transparaît également dans son célèbre dernier tweet avant de quitter le PSG en 2016, je cite « Mon dernier match demain au Parc des Princes, je suis venu comme un roi, je repars comme une légende ». Une légende sur laquelle on serait peu nombreux à avoir misé puisque la vie de Zlatan démarre comme un film de Kusturica. Autrement dit, dans un joyeux bordel yougoslave, Zlatan étant le fruit d'un mariage arrangé entre une croate catholique et un père bosniaque musulman, tous deux fraîchement immigrés en Suède. Divorce, famille déchirée, recomposée, demi-sœur mêlée à un trafic de drogue, mère violente arrêtée pour dissimulation d'objets volés, services sociaux et garde des 6 enfants finalement confiés au paternel, qui, pour faire preuve de bonne volonté, n'en est pas moins alcoolique. Bref, on est dans Underground, la palme d'or en moins. Mais rapidement, dès la préadolescence, le jeune Zlatan réalise qu'il va pouvoir s'arracher à cette condition sociale grâce à une partie bien précise de son anatomie.
Le sexe.
Non Stéphane, les pieds. Le gamin de Malmö a de l'or dans les panards. Et bientôt sa taille, 1m92, devient un autre atout pour coiffer les défenses adverses au poteau. Il rejoint l'Ajax d'Amsterdam, puis le FC Barcelone qui paye mieux, puis le Milan AC qui paye encore mieux, normal, il y a Berlusconi, puis au sommet de sa carrière, le PSG qui paye encore mieux, normal, il y a les Qataris. PSG avec qui il est sacré 3 fois meilleur joueur de Ligue 1 et il aurait pu l'être 0 fois. Car oui, Zlatan l'a donc lui aussi échappé belle. En 2010, le monde a failli être privé de Zlatan. On avait déjà perdu Claude Chabrol et Ginette Garcin, c'était vraiment pas le moment. C'est le tueur en série suédois Peter Mangs qui nous l'apprend dans son autobiographie non traduite en français intitulée « Mer variande at vara for mix valj, mina arventur is vezonsson », soit David. Mais vous êtes nul en langue, mais que de la gueule, que de la gueule. Bref, c'est dans son autobiographie que le jovial Peter Mangs, qui est à la fois maniaque et néo-nazi, une association qui ne fait jamais bon ménage, révèle qu'il a bien failli buter Ibrahimovic. Si on a tendance à le croire, c'est que Peter est responsable d'une quinzaine de fusillades entre 2009 et 2010 à Malmö, en Suède, ville de naissance de Zlatan. 2 morts et plus d'une dizaine de blessés sont à déplorer, d'ailleurs lors de ses petites virées criminelles. Cerise sur le fjord, Peter n'est pas que fou, il est aussi xénophobe et, sans être raciste, estime que la Suède devrait être laissée aux Suédois. Un jour qu'il sortait se balader, pour acheter quelques boulettes de bœuf ou pour ratonner quelques immigrés basanés, l'histoire ne le dit pas, voilà que Peter a une vision d'horreur. Une Ferrari mal garée. Orchestra hit. Nom de Dieu de bordel de merde, se dit Peter qui, non content d'être un serial killer, est en outre très vulgaire. C'est la Ferrari du Yugo. Traduction, je crois reconnaître la voiture de sport de Zlatan Ibrahimovic, le célèbre footballeur suédois d'origine croate. Peter, on le comprend, est choqué. Buter des gens parce qu'ils sont basanés, c'est une chose, mais mal garer son véhicule, voilà qui est pour un Suédois pure souche intolérable. Notez que ça ne le surprend pas que Zlatan ait mal garé sa Ferrari, comme il l'écrit dans son autobiographie. Il s'agit là d'une attitude typique des gens des Balkans.
C'est un peu ça, oui.
Non, non, Stéphane, je vous en prie, pas d'amalgame. C'est ce qui se passe ensuite dans la tête de Peter qui est intéressant. Car enfin, comment réagit-on normalement quand on voit une Ferrari mal garée ? Personnellement, je prends mon téléphone et j'appelle Stéphane. Est-ce que tu peux, s'il te plaît Stéphane, demander à ton chauffeur de bien vouloir déplacer la 812 Superfast fin carbone céramique que tu as une fois de plus garée sur une place handicapée du parking d'Europe 1 ? Je te rappelle que cette place est vraiment réservée à ceux qui, dans la rédaction d'Europe 1, sont vraiment handicapés.
Catherine Ney.
Non, non, je te plaisante. Bref, devant une féfée mal garée, l'attitude normale consiste à soupirer, voire, pour les plus énervés, à rayer la dite Ferrari avec les clés de sa Panda. Peter Mangs, lui, opte pour une option plus étonnante, attendre le retour de l'automobiliste fautif pour le flinguer. Il déclare « Assassiner Zlatan, cela me semblait être une bonne histoire pour les médias ». Seulement voilà, pas de bol, pour une fois Peter était sorti sans son gun. L'oublie con, tu sors de chez toi pour aller à l'épicerie chercher ton PQ et tu oublies de prendre ton Colt. Résultat, Peter fonce chez lui récupérer une arme. Heureusement, le temps qu'il farfouille dans ses tiroirs, vous savez ce que c'est, on n'a jamais la bonne clé, on vérifie 4 fois qu'on a bien fermé le gaz. Et Zlatan avait récupéré son bolide et s'en était allé, échappant de peu à une fin tragique. Pour lui, mais aussi pour la voiture, les amateurs le savent, même avec du vinaigre blanc, le cervelet séché, c'est une vraie galère à récupérer, surtout avec le cuir pleine fleur de chez Ferrari. Bref, Peter a raté raté son coup, il n'aura pas de deuxième chance car il sera arrêté peu de temps après et condamné à la prison à vie. Zlatan a échappé à la mort, ce qui n'est au fond pas très surprenant, sachant qu'il se considère lui-même comme un dieu. Et peut-être, tout compte fait, l'est-il un peu, puisqu'aujourd'hui âgé de 39 ans, soit à un âge où normalement, et je dis ça sous couvert d'anonymat, on commence à se féliciter le matin quand on réussit à enfiler ses chaussettes sans s'asseoir.
Youpi !
Bravo Stéphane ! Zlatan, lui, a re-signé cette année au Milan AC où il continue d'enchaîner les buts. Il faut dire qu'il s'impose toujours une discipline de fer. Son agent raconte que parfois, quand il fait des pompes, Zlatan lui demande de lui monter dessus, en tout bien tout honneur, afin de corser un peu les choses. Invincible Zlatan, qui aura au total échappé à deux serial killers, le néo-nazi dont on vient de parler, et le coronavirus. Il l'a attrapé, cette fois pas de Ferrari mal garé, mais un masque peut-être porté un peu trop bas sous les narines. Le tueur est entré, mais n'a pas gagné. Il s'est fait zlataner. Évidemment, dans une campagne de prévention, Zlatan a choisi d'en rire.
Il virus mi ha sfidato ed io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan. Non sfidare il virus.
Soit David. Non mais en vrai, il est vraiment nul. En fait, il nous a fait croire qu'il était polyglotte. Quel tocard ce David. Le virus m'a défié et je l'ai vaincu. Mais attention, tu n'es pas Zlatan. Ne défie pas le virus. Voilà la campagne de prévention qui circule en Suède. Elle est efficace.
C'était du suédois, donc.
C'était du suédois, Stéphane.
Ah oui, mais, oui.
Vous me connaissez
non,
pas, le suédois.
Non, mal, je le parle assez mal. Oui. Merci, Mathieu. C'était à 99% vrai, donc il y a 1% de faux.
1% de faux, effectivement, vous ne roulez pas en 812 pour Superfast, mais effectivement, Ferrari Testarossa des années 80, puisque vous aimez le vintage.
Mais non, j'ai jamais eu de voiture.
Laissez-moi répandre des rumeurs.
Vous avez une Mini, c'est ça?
J'ai une Mini Cooper S. Ouais.
Attendez, vous avez... Alors, excusez-moi, on fait un point là-dessus, automobile. Oui. Vous avez toujours la Mini que vous aviez il y a super longtemps, vous l'avez changée? Oui.
Alors, je la change tous les 3 ans parce que
d'accord. D'accord, c'est un leasing.
C'est un leasing.
Stéphane Bern est en leasing. Ça, c'est
beaucoup de gens,
mais
non?
Tout à fait, tout à fait. Mais bravo.
C'est plus économique.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'est l'heure, Mathieu, de dire au revoir à nos rescapés du jour. Du passé, faisons table rase, ou presque. Car c'est toujours en remontant aux origines qu'on réussit à mieux comprendre le monde qui nous entoure aujourd'hui.
Voilà Stéphane, qui est admirablement dit, et ça ne m'étonne pas venant du type qui présente le mot de la fin. Cette chronique qui vous révèle aujourd'hui l'origine d'une expression, les propos sibyllins.
Mais oui, d'où ça vient? De Sibylle.
De Sibylle.
Vous connaissez Sibylle?
Mais je connais Sibylle, c'est une cousine.
Une cousine qui s'appelle
Cousine
Sibylle.
Une très bonne cousine. Effectivement, ça me rappelle de beaux souvenirs. Mais vous n'êtes pas le seul, Stéphane, dans cette dernière demi-heure à déconner notre quotidien. Il y a aussi Olivier et David, les tic et tac de la culture G, un petit peu. Ils sont inséparables, ces deux-là. Olivier, vous avez apporté quelque chose? Non, vous n'avez rien apporté? C'est dommage.
Bon, on va passer à la dégustation après, ne vous inquiétez pas. Mais non, moi je vais revenir à l'origine d'une bouteille de champagne bien particulière, celle de...
Bien
de,
cher.
De Cristal de Rodrer, mais plus globalement, on s'intéressera à l'origine de la bouteille de vin et de champagne.
Je donnais tout à l'heure le code d'entrée de chez Stéphane Bern, vous l'avez noté. Mais d'où vient le digicode? Ça, c'est une mission pour David Castello-Lopez.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'émission qui dépoussière l'histoire chaque après-midi continue avec David Castello-Lopez, notre enquêteur de l'histoire qui remonte aux origines d'une invention, d'un objet du quotidien. Aujourd'hui,
le digicode.
Le digicode.
Vous connaissez cette sensation d'avoir un mot sur le bout de la langue, par exemple, je sais pas, Finistère, et vous n'avez pas trouvé Finistère, et vous le trouvez pas, vous passez 5 minutes à dire, mais si, le département en Bretagne, là, il y a une chanson même avec un type avec un béret. Voilà, et qui, vous arrivez pas, c'est quand même une sensation intellectuelle particulièrement désagréable, mais il y a une sensation plus désagréable encore que celle d'avoir un mot sur le bout de la langue, c'est d'avoir le code d'entrée d'un immeuble sur le bout de la langue. Alors, vous savez, ces fois où vous faites A8702, ça marche pas. Alors vous faites 8702A, ça marche pas non plus. Puis 87A, non plus. Rien non plus. Et c'est quand même complètement affreux et énervant. Et du coup, vous appelez la personne que vous venez voir dans l'immeuble et vous dites ton code c'est bien A8702. Et là, il y a plus de réseau, donc vous entendez pas la réponse et vous avez envie de mourir. Tout ça à cause de ces foutus digicodes. Parce que avant, je veux dire, les portes, on les ouvrait avec des clés. Ou alors on sonnait chez la concierge, et puis voilà. Et donc la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient le digicode? Pourquoi avant il n'y en avait pas, et maintenant il y en a? Eh bien pour le savoir, j'ai pris la voiture, pas la mienne, hein, vous savez, parce que j'ai pas mon permis. J'ai pris la voiture et je suis allé à Bœurs-en-Othe. Bœurs-en-Othe, c'est un village de 300 habitants en Bourgogne. À Bœurs-en-Othe, on trouve tout un tas de choses typiques des villages de 300 habitants, comme par exemple de la boue, vous voyez, ou des tracteurs. Mais il y a aussi une jolie maison, et c'est dans cette maison que le digicode a été inventée. Cette maison, c'est celle d'un monsieur qui s'appelait Robert Carrière, mais que tout le monde appelait Bob Carrière, parce que c'était plus cool. Bob, il est né en 1931 à Chalon-sur-Saône, une ville dynamique et moderne, en tout cas selon un petit film promotionnel des années 70 que j'ai trouvé sur YouTube.
Chalon-sur-Saône, ville dynamique et moderne.
Voilà, ville dynamique et moderne. Il est devenu ingénieur, Bob, et c'était un ingénieur assez sympa parce que il aimait bien inventer des trucs. Et un jour, c'était en 1970, Bob, il regardait le dessin animé Popeye à la télévision, et il a vu un personnage qui ouvrait un réfrigérateur pour y déposer de la nourriture, et pour verrouiller la porte, ce personnage, en fait, sur la porte, il y avait un cadran de téléphone circulaire, vous savez, ceux qu'on faisait tourner comme ça avec les doigts, parce que c'était un dessin animé des années 30, et là, Bob, il s'est dit, je vais copier Popeye dans la vraie vie, en fait. Et il a expérimenté d'abord des trucs dans son atelier, puis il a fait plein de prototypes. Et finalement, en 1972, il a créé le Digicode à partir de cette idée qui lui était venue en regardant Popeye. Et le premier Digicode de l'histoire de l'humanité, il a été installé au 20 de la rue Jean Mermoz, dans le 8e arrondissement à Paris. Et on connaît même le premier code de ce premier Digicode, qui était 43B28. Alors, vous me connaissez, je suis un petit peu comme ça, j'aime bien, je suis curieux.
Vous êtes allé.
Donc, j'y suis allé.
Ils ont changé le code depuis.
Et je me suis dit, tiens, est-ce que le code 43B28, il marche toujours? Eh bien, je peux vous le dire aujourd'hui, non. Voilà, il a changé. On est maintenant 50 ans plus tard. Ouais. Le code du...
Et on le sait, grâce à Daniel Thompson, le code a changé.
Exactement.
C'est une référence cinématographique. Très bon film.
Bob Carrière, c'est aussi lui qui a inventé le mot digicode, qui est aujourd'hui dans le dictionnaire. Lui, il est mort en 2007, mais il y a deux fils que j'ai rencontrés et qui veillent sur sa mémoire, et donc c'est quand même assez mignon. Et chose mignonne aussi, quand même, à Beurre sans note, la rue où il y a son ancienne maison s'appelle maintenant la rue Bob Carrière. C'est pas l'avenue Montaigne non plus, hein. C'est une rue où il y a surtout des poules et de la boue aussi. Mais quand même, j'ai trouvé ça que ces trucs, c'était un petit peu la classe. C'est donc une invention française.
Oui, ne soyez pas méprisant avec nos villages où il y a de la boue et des poules.
Vous aimez tant, Stéphane.
Oui, exactement.
Et moi aussi.
Et alors, en fait, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est l'origine du Digicode. C'est le fait que, pour des raisons de rentabilité, etc., dans les copropriétés,
on a viré les concierges,
on a l'horloge ont été transformées en espace pour de rangement, etc.
Ou même en studio, parfois.
Le plus souvent.
Et on a mis des digicodes, parce que ça coûte moins cher aux copropriétés.
Oui, c'est vrai. C'est triste. Après, c'est le digicode ne distribue pas le courrier le matin.
Non.
C'est une triste.
Oui, il le fait très très mal.
Il y a des boîtes aux lettres maintenant. Non, c'est très triste, au fond.
C'est la fin d'une époque, Stéphane. Oui. Ouais.
Surtout pour cette communauté portugaise que vous représentez, c'est bien.
Non, mais moi, par exemple, dans mon enfance, on tirait le cordon. Et il y avait la concierge.
Ça, c'est au château de Versailles, c'est différent. C'était pas des cordons et des domestiques arrivés.
Dans le cœur de Paris.
C'est vrai?
Donc, elle ouvrait la porte, quelle que soit l'heure où on rentrait. Bon, ça posait des problèmes parce que le lendemain, elle disait à mes parents, Stéphane est rentré à 2h.
Qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à 2h du matin dehors, Stéphane?
J'allais boire des coups.
Vous alliez boire
des
coups?
Oui, je sais, c'est une autre époque, une époque où il n'y avait pas de couvre-feu et on avait le droit d'aller boire des coups.
Surtout une époque où vous buviez, Stéphane. Je découvre.
Une grenadine.
Un petit Vitelmente. Merci en tout cas, David Castello-Lopez. On retrouve toutes vos chroniques, les origines en podcast sur toutes les applis audio et le site europe1.fr. Olivier Pouls, faites péter le champagne, mais pas n'importe lequel.
Ah bah non, Cristal.
Cristal, c'est vous qui
avez. Vous le valez bien quand même.
C'est pas en note de frais Europe 1.
Non, bien sûr.
Oui.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Consommer avec modération, le champagne est un spiritueux fort remarquable. Consommer avec excès, il peut avoir de douloureux effets secondaires, notamment sur votre capacité d'élocution.
À nos impressionnants
Mais Olivier Pouls nous parle aujourd'hui du roi des champagnes, de la reine des champagnes, je ne sais pas comment dire.
L'un des plus prestigieux, l'un des plus chers, il faut compter pas loin de 200 euros la bouteille quand même,
non.
Donc c'est pas pour tout le monde. Ah ouais, non, c'est pas donné. Hein.
Stéphane fait semblant d'écrire le prix d'une bouteille de cristal redoré.
J'en ai jamais bu.
C'est vrai?
On va
y remédier tout à l'heure, vous verrez ça.
Ah, super.
Alors,
un champagne, il y a une particularité.
Oui, il a une particularité. Si vous regardez un étalage de bouteilles de champagne, vous verrez qu'il y en a une qui dépareille par rapport aux autres.
C'est le ruinard, alors c'est raté.
Alors, elle n'a pas exactement la même forme, mais la bouteille de cristal de Roederer a une particularité. Et cette particularité, elle s'explique par la parano de celui qui fut l'un des plus grands consommateurs de champagne Roederer et pour qui on a inventé d'ailleurs cette cuvée cristal.
Le tsar.
Il s'agissait du tsar Alexandre II. Et le tsar Alexandre II, il avait une sacrée trouille, ouais. C'était celle de se faire assassiner dans un attentat. Ce qui, au demeurant, finira par lui arriver.
Oui, la peur n'écarte pas le danger.
Voilà, parce qu'en 1881, à Saint-Pétersbourg, il explose face au puzzle.
Il a explosé, oui.
Mais, donc, lui, en 1876, achetait les meilleurs lots de la production de la maison Roederer. Et il avait exigé que soit produit, pour l'occasion et pour lui, une bouteille particulière qu'il voulait à fond plat. Et c'est ça la première des particularités de la bouteille de Roederer.
Ça veut dire qu'il y en a plus dedans ?
Il n'y a pas de cul dans la, si je puis dire, dans la bouteille. Il n'y a pas de cul de bouteille. Le fond est totalement plat. Pourquoi ? Ben parce qu'il avait peur qu'on puisse dissimuler une bombe dans le cul de la bouteille, qu'on la mette à table et que boum. Ah, il était très très parano. Et il avait exigé une deuxième chose, c'est que la bouteille soit transparente. Alors que vous savez que les bouteilles de vin et les bouteilles de champagne, même à l'époque, étaient déjà teintées, en général un peu vertes ou. Alors ça, c'est pour éviter l'action des ultraviolets qui sont nocifs pour le vieillissement du vin. Il avait exigé qu'elle soit transparente pour pouvoir voir là aussi si on avait versé peut-être quelque chose dans le vin.
En ne pensant pas une seconde que le produit qu'on avait pu verser était lui-même incolore. Bon, ça lui avait pas effleuré l'esprit.
Voilà. En tout cas, cette cuvée est devenue évidemment extrêmement célèbre dans le monde. Elle a fait la gloire de Roederer et elle a continue à être produite, bien évidemment, puisqu'elle existe toujours, mais c'est bien à Alexandre II que l'on doit cette fameuse
bouteille. Et donc elle est toujours à cul plat et toujours transparente.
Et c'est la seule. Et alors pourquoi d'ailleurs les autres bouteilles n'étaient pas à cul plat ? Pourquoi est-ce qu'on leur faisait
parce que les bouteilles, on les laisse allonger, comme ça on les laisse reposer.
Non. C'est pas pour cette raison-là. Et là, c'est pour une bonne...
Service, parce que quand on sert les bonnes maisons, on met le doigt dans le cul de la bouteille.
On met le doigt dans le cul de la bouteille.
Ah oui, on sert avec le pouce à l'intérieur du cul de la bouteille qu'on tient.
Alors,
le service est venu après la bouteille, mais la bouteille était tout simplement parce qu'à l'époque, quand on a commencé à faire les premières bouteilles, on est au 4e siècle, et les verriers n'ont pas la technique nécessaire pour faire un fond plat qui soit parfaitement plat, si on peut dire. Et donc, les bouteilles, elles tenaient pas debout.
D'accord.
Donc, la manière qu'on a trouvée, c'est de rentrer une partie de ce fond à l'intérieur, de manière à rendre les bouteilles plus stables. Bouteilles qui, aujourd'hui, font 75 centilitres. Pourquoi une bouteille de vin ou une bouteille
de
champagne
de ce cul.
Fait 75 centilitres? Non, pas du tout, on pourrait les faire d'un litre. Pourquoi est-ce qu'elles font pas tout simplement un litre?
Mais j'en ai aucune idée.
Eh bien ça remonte au 19e siècle, alors que les Anglais sont de très gros consommateurs de vin de Bordeaux notamment. Il y a beaucoup de négociants anglais à Bordeaux. Et vous savez que les Anglais n'ont pas le même système métrique que nous.
Bah oui.
Puisqu'ils ont le gallon qui fait 4,5 litres. Les barriques, elles, faisaient 225 litres, soit 50 gallons ou 300 bouteilles de 75 centilitres.
Ah.
Et donc, pour des raisons de compréhension...
C'est à cause des Anglais qu'on a des 75 centilitres et qu'on n'a pas un litre.
Eh oui, car 6 bouteilles, une caisse de 6 bouteilles, ça fait un gallon. Voilà pourquoi les bouteilles font aujourd'hui 75 centilitres.
Pour une fois.
Merci beaucoup, Olivier Pouls. On retrouve toutes ces informations.
Toutes vos recettes, et aujourd'hui pas votre recette,
non, mais
informations précieuses. L'information précieuse, notamment.
Les bouteilles, 75 centilitres.
Notamment votre très belle intervention, Stéphane, sur
comment, le service du vin.
Comment servir le vin en mettant la main dans le cul.
En le disant, tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était un poil grossier. Mais en réalité, oui, c'est comme ça qu'on sert pour pas. Parce que si vous mettez la chaleur de la main
exactement,
sur le goulot de la bouteille,
vous réchauffez le vin.
C'est la catastrophe.
Oui.
Tout comme les verres à pied, on ne tient le verre que par le pied.
Ça, je le savais.
Là aussi, pour ne pas chauffer le
liquide.
On tient par la tige et on met la main dans le cul. C'est comme ça qu'on peut résumer
le
service du vin. Mais c'est comme
Europe1.fr pour retrouver Olivier Pouls. Moi, je vous retrouve dans un instant pour le mot de la fin.
Oui.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, une émission qui se termine chaque jour par la chronique de Stéphane Bern. Le fin mot de l'histoire, l'origine d'une expression aujourd'hui, des paroles sibyllines.
Parfois, c'est vrai, on reproche à nos dirigeants politiques de pratiquer la langue de bois. Et parfois, et ce n'est pas plus un compliment, d'avoir des propos sibyllins. D'où vient cette expression des paroles sibyllines?
Alors déjà, généralement, quand on parle d'un discours sibyllin, on comprend pas bien le sens du propos. Ça vient de la Grèce antique, je crois.
Oui, exactement. Apollon avait des prophétesses qui connaissaient l'avenir des hommes, les sibylles. C'est le problème, quand ces oracles s'exprimaient, on comprenait pas forcément leurs réponses. Et leurs interprétations étaient délicates à saisir. Un peu comme avec le père Fouras dans Fort Boyard, vous voyez. Ça reste toujours très énigmatique. Un exemple est souvent cité, celui d'un soldat romain qui avait demandé son avenir lors d'une bataille prochaine. Une sibylle lui répondit « Ibis redibis non moriris in bello ». Et ce sans virgule ni pause entre les mots. Ce qui fait que la négation pouvait être interprétée différemment selon l'optimisme ou le pessimisme du guerrier. Ça pouvait dire « tu partiras, tu reviendras, tu ne mourras pas à la guerre » ou « tu partiras, tu ne reviendras pas, tu mourras à la guerre ».
Ne se mouillez pas, quoi.
Ibis, redibis, et tu finiras à l'hôtel Ibis. Ouais. C'était un petit peu le sens de la prophétie.
Le pauvre centurion dut prendre la route du combat pas plus avancée qu'il ne l'était comme nous avant de consulter Elisabeth Tessier. Notez que 300 ans avant Jésus-Christ, une série de livres circulèrent dans l'Empire romain connus sous le nom d'oracle sibyllin, dont certaines copies datant du XIVe siècle existent encore aujourd'hui. Je vous rassure, j'ai tout relu ce week-end et personne n'avait jamais prévu la Covid. Ils l'ont échappé belle. Hein.
Et vous aussi Stéphane, car quand vous avez parlé de Fidel Castro tout à l'heure, j'aurais pu malicieusement vous forcer à chanter l'International.
C'est la lutte finale.
On sent que vous êtes motivé. Lequel de nos personnages du jour vous a le plus ému, Stéphane? Est-ce que c'est la reine Victoria? Bon, ça, c'est la reine de votre cœur. Est-ce que c'est ce bon vieux Fidel Castro?
Non, Fidel Castro, j'ai bien aimé parce que les 634 tentatives, oui, au fond, ils sont acharnés contre lui, ça n'a pas réussi.
Vous savez, surtout, c'est des branques, hein, parce que franchement.
Ils étaient des branques, mais beaucoup de dictateurs sont morts dans leur lit, hein.
Une idée de ce qui nous attend demain, mon cher Stéphane.
Plus qu'une idée, Mathieu, à cette heure-là. Un programme détaillé. Demain, prête-moi ta plume.
Qu'est-ce que vous voulez faire avec ma plume, Stéphane?
C'est le thème de l'émission. Hein. On réunit trois personnages à plume. Le chef indien Sitting Bull, la reine du music hall des années folles, Miss Tinguette.
J'ai compris. Et donc, Régine aussi, avec sa grande zoa qui, autour du cou, se met un boa.
Alors à demain, je mettrai mes plumes.
J'ai hâte.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.